France Culture, avoir raison avec Karl Polanyi, par Aliette Ovin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de cette série consacrée à Karl Polanyi, un économiste contre l'économisme. Sur la photo, a priori, tout concorde. Un front dégarni, de petites lunettes rondes, une cravate bien ajustée. Aucun doute possible, nous sommes bien là face à l'économiste modèle façon première moitié de XXe siècle. Mais il faut comme souvent se méfier des apparences. Cet homme a l'air sérieux, c'est Karl Polanyi, qui toute sa vie a cherché à dénoncer la toute-puissance du marché et de la science économique. À travers ses essais, à commencer par son œuvre la plus connue, La Grande Transformation, qui a été publiée en 1944, Karl Polanyi nous montre comment les lois dites du marché, qui consiste à dire que la rencontre de l'offre et de la demande forme un prix toujours juste, ont en réalité bouleversé les deux derniers siècles, au mépris de ce qui fait l'essence même des liens qui unissent les hommes entre eux et avec leur environnement. Faire passer ces lois pour des évidences relève d'une vaste illusion que Polanyi nomme l'économisme. Nombreux sont celles et ceux qui depuis ont cherché et cherchent encore à avoir raison avec Karl Polanyi, tant cet intellectuel à la fois économiste, historien, anthropologue, sociologue et surtout tout cela à la fois a contribué à l'élaboration d'une vision nouvelle et iconoclaste du capitalisme. Né en 1886 et mort en 1964, Karl Polanyi a traversé un début de XXe siècle en proie aux guerres, à la montée du fascisme, aux crises de nature aussi variée que violente. Un chaos qui le concerne directement puisqu'il le pousse à traverser l'Europe puis l'Atlantique. Comment un jeune intellectuel, bien sous tout rapport, en vient à s'élever contre ses pairs et contre le discours dominant? Comment les bouillonnements politiques qui marquent le début du XXe siècle en Hongrie et en Autriche, où se forme Polanyi, ont-ils influencé la discipline économique? Que cherche et que trouve Polanyi à travers ses exils? C'est ce parcours que nous allons retracer aujourd'hui grâce à notre invité, en duplex depuis les studios de France Bleu à Lyon, Jérôme Maucourant, bonjour.
Bonjour Aliette Ovin et merci beaucoup de votre invitation. Je dois dire que votre présentation est très éclairante.
Je vous en remercie. Jérôme Maucourant, vous êtes économiste vous-même, maître de conférences en sciences économiques à l'Université Jean Monnet située à Saint-Étienne, et vous êtes également membre du laboratoire Triangle de l'ENS à Lyon. Et vous êtes surtout l'auteur d'un ouvrage alors édité alors une première fois en 2005 aux éditions La Dispute, puis en 2011 dans la collection Champ Flammarion, ce fameux format poche assez reconnaissable à sa couleur jaune pétante. Cet ouvrage donc intitulé « Avez-vous lu Polanyi ?» Alors Jérôme Maucourant, pourquoi une telle question? Est-ce qu'il y a une nécessité, selon vous, à lire Polanyi? Que se passe-t-il si on se voit bien obligé de répondre par la négative? Faut-il, en somme, avoir lu Polanyi, selon vous?
À la fin de l'introduction de Raymond Aron à cette œuvre majeure de Thorsten Veblen, « La théorie de la classe de loisirs », il était dit, en gros, enfin, c'était le message, c'était le titre donc, « Avez-vous lu Veblen ?» Bon. Et c'est vrai que l'idée, c'est que la référence à Marx est devenue problématique pour beaucoup de monde, parfois pour de très mauvaises raisons, et que, si on peut le dire ainsi, la critique avait besoin de se ressourcer. Et je pense que Veblen et Polanyi, par exemple, sont effectivement deux auteurs importants qui nous permettent de penser le capitalisme critique de façon autre. Polanyi, il n'est pas marxiste, mais on peut pas le comprendre du tout sans Marx. Il publie la Grande Transformation il a près de 60 ans quand il écrit ce livre. Donc il y a toute une vie avant, et cette vie quand même, c'est une vie qui a un rapport très compliqué avec le marxisme. Voilà.
Et rapport sur lequel on aura l'occasion de revenir tout au long de cette émission. Donc en plus de cet ouvrage, Jérôme Maucourant, vous avez consacré beaucoup de travaux à Karl Polanyi dans le but de le vulgariser dans le meilleur sens du terme. Vous avez participé à des colloques, à des conférences. Vous avez également participé aux rééditions, voire aux éditions tout court, françaises d'ouvrages de Polanyi. Et d'ailleurs, à cet égard, est-ce qu'on peut dire que Polanyi s'est fait connaître finalement assez tardivement en France, parce que pour ne citer que son œuvre la plus connue, on va dire La Grande Transformation, qui a été publiée en 1944 dans un premier temps, l'ouvrage, lui, n'est sorti en France que dans les années 80, en 1983. Comment on explique cette entrée donc relativement tardive dans les rayons des librairies françaises?
Alors, je pense que ça s'explique très bien, Parce que durant la période où un certain marxisme orthodoxe dominait la scène intellectuelle, en tout cas du point de vue, si on peut dire, de ce qu'on peut appeler la critique, il est clair que Polanyi n'était pas bienvenu. En fait, hein. Ce n'était pas du tout un marxiste orthodoxe, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, dans les années 80-90, bon, il se passe ce qui se passe, hein. C'est quand même la fin du siècle soviétique, comme l'a écrit Moshe Levin. Et là, effectivement, on va progressivement découvrir Polanyi. Bon, je dirais qu'à la fin des années 70, clairement, le modèle soviétique ne fait plus rêver. Et c'est pourquoi il est traduit avec beaucoup de retard. En réalité, la grande transformation n'a pas été si vendue, en fait. Hein. C'est un ouvrage très cité, rarement lu, presque jamais. C'est assez étonnant. Et je pense que ça, c'est dû vraiment à l'emprise, à la fois, dans un premier temps, donc, comme je le disais, d'un certain marxisme dans la scène intellectuelle française, et ensuite de la réaction néolibérale, où effectivement, quelqu'un comme Polanyi, bien sûr, n'a rien à voir avec tout cela. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il faut nuancer le tableau. C'est-à-dire que dans le champ de l'anthropologie, Maurice Godelier a beaucoup fait. C'est-à-dire qu'il tient un séminaire. Tout cela va aboutir à l'introduction d'un livre important de Polanyi. Et finalement, l'énorme problème, c'est que Maurice Godelier dit, bon, finalement, voilà, ce que nous explique Polanyi est intéressant, mais ça ne relève pas de la science à proprement parler. Ou si ça relève de la science, c'est le même champ théorique que les économistes libéraux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Polanyi ne se réfère pas à la théorie marxiste de la valeur, la théorie de la valeur travail.
Pour terminer peut-être cette introduction dans sa pensée, moi ce que j'aimerais savoir, c'est qui lit Polanyi aujourd'hui ? Vous avez dit qu'il était très cité, rarement lu. Est-ce qu'il est enseigné au lycée ou est-ce qu'il faut se spécialiser dans la recherche en économie ? Est-ce qu'on doit chercher à rencontrer Polanyi ou est-ce que finalement Polanyi vient à nous assez facilement ?
Il y a un certain nombre de professeurs, notamment très actifs dans l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, l'APSES, qui effectivement parle et enseigne Polanyi. C'est vrai. Il y a eu une vague, mais j'ai l'impression qu'elle est retombée. Et effectivement, ceux qui s'y intéressent sont plutôt des étudiants qui vont faire sociaux, anthropologie, histoire, économie rarement. Parce que il est considéré par les économistes professionnels comme un anthropologue ou un historien, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'est pas très fréquentable en réalité. Donc, effectivement, c'est une place qui est très difficile à trouver pour lui, et c'est plutôt des chercheurs, en fait, hein, des étudiants qui, à partir de la troisième, quatrième année, peuvent s'y intéresser.
Alors, une place difficile à trouver, mais figurez-vous que le 25 juin dernier, le quotidien espagnol El País a publié un article qui établissait le classement des 10 penseurs les plus influents, ou en tout cas qui ont le plus influencé la gauche, et dans ce fameux top 10, on retrouve en 9e place, bien calé entre Habermas et Walter Benjamin, Karl Polanyi. Est-ce qu'un tel classement vous étonne ? Et surtout, que penser de cette idée de penseur de gauche, en fait ? Et peut-être qu'il faut citer là aussi l'ouvrage du professeur Gareth Dale, qui est intitulé « Karl Polanyi, a life on the left ». Est-ce que c'est ça qui est resté, finalement, l'idée d'un penseur de gauche ?
Alors, je pense que si on l'a classé dans cette liste des 10, d'ailleurs, je vous remercie, je ne savais pas du tout ça m'intéresse beaucoup, j'irai voir. C'est probablement à cause du slogan écologiste « Le monde n'est pas une marchandise ». Parce que s'il y a un message de la grande transformation, c'est bien celui-ci. C'est bien que la terre, le travail et la monnaie sont des marchandises fictives. Donc on peut dire que effectivement Polanyi est en quelque sorte le père spirituel d'un certain écologisme politique, c'est tout à fait exact. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire forcément qu'on l'ait lu, mais en tout cas, je pense que beaucoup de militants ont retenu ce message fort justement.
Pour finir ce tour d'horizon, qui consiste un peu en une introduction, on va dire, en douceur à la pensée de Polanyi, qui est très complexe, comme on va le voir dans les 4 jours suivants. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé à la lecture de Polanyi, et surtout de la grande transformation, c'est son style, qui est une question bien moins anodine qu'il n'y paraît. Je trouve qu'il y a finalement une écriture très, très moderne chez Karl Polanyi, qui n'est pas avare en ce qu'on appellerait aujourd'hui des punchlines. Voilà, il y a des citations assez connues, notamment « Pour comprendre le fascisme
allemand, nous devons en revenir à l'Angleterre de Ricardo. Ce genre de phrase qui fait qu'au final, est-ce que on peut dire que Karl Polanyi est un auteur relativement accessible? Est-ce que ça surprend de la part d'un économiste du début du XXe siècle? Est-ce que c'est ça qui contribue aussi au fait qu'il reste extrêmement cité?
Oui, je vais vous en donner une autre d'ailleurs, qui est très très forte, vous avez raison, c'est quant à la planification, il dit le laisser-faire a été planifié et la planification ne l'a pas été. Mmh. Alors c'est un paradoxe terrible et qui est au cœur de sa pensée, donc il peut être très fort là-dessus. Alors, c'est vrai, d'ailleurs il le dit lui-même, hein. Moi je propose un récit. Il ne s'agit pas pour lui de faire une fresque historique nécessairement exacte dans tous les détails, mais d'établir les éléments d'une compréhension globale. En fait, la grande transformation se lit très bien. Trop bien d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est obligé de le lire très souvent, en fait, pour approfondir. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression d'avoir compris, on a évidemment compris une première lecture, mais en repassant le fer, il y a d'autres choses qui apparaissent. Alors, à l'inverse, vous lisez la théorie générale de Keynes, qui est d'une obscurité absolument terrible. Keynes a donné une impression de profondeur en écrivant de façon presque, je dirais, sibylline et quasi lisible. Polanyi, pas du tout. Il a voulu faire quelque chose d'accessible, mais voyez-vous, la phrase que vous avez mis en exergue, ou celle que j'ai citée, ce sont des choses énormes, en fait. C'est-à-dire, vous pouvez tirer la pelote et on va aller très très loin.
France Culture, Avoir raison avec Karl Polanyi, par Aliette Ovin.
Alors avant d'entrer dans les détails de toute la complexité de la pensée de Polanyi, ce qu'on fera tout au long de la semaine, moi j'aimerais qu'on revienne sur le contexte de production de cette pensée, qui est certes celui de la Vienne des années 1920-1930 dans laquelle vit Polanyi. Mais avant cela, et c'est peut-être là l'occasion de parler d'un premier exil, bien qu'il soit né donc dans la ville de Vienne en 1886, il a d'abord connu ce qu'on appelle une période hongroise de 1907 à 1919, qui le voit jeune étudiant se former, s'ouvrir au monde. Comment ce contexte hongrois-là a influencé, on va dire, la formation de l'esprit de Polanyi?
C'est vrai que c'est très important, hein, cette référence, je dirais, à sa magyarité. Il a gardé un sentiment très très fort de son pays natal, même si d'ailleurs il faut quand même bien le dire, il y a une dizaine d'années justement précisément, il y a des gens qui ont cru bon de détruire une petite stèle qui commémorait la famille Polanyi, parce qu'on va peut-être en parler maintenant. Polanyi, un frère très célèbre également, mais qui est devenu lui un ultralibéral, qui s'appelait Michael Polanyi. Bon. La famille Polanyi, à l'origine, s'appelle Polacek. C'est une famille juive, donc qui débarque dans cette partie de l'Empire austro-hongrois. Son père est ingénieur, et on pourrait dire que c'était un homme rempli d'idées progressistes, au sens de la démocratie parlementaire, de l'égalité, et d'un rapport avec les femmes, évidemment, tout à fait nouveau, en fait. Il a reçu une éducation vraiment, vraiment d'exception, avec beaucoup de travail, hein. Il faut dire que, enfin, ce visage austère que vous voyez parfois sur les photos, en réalité, c'est un spartiate du travail intellectuel. Et ça, très, très jeune. Donc, il y avait un élément, si on peut dire, à la fois progressiste, patriotique dans cette famille, et tout ça a profondément marqué Polanyi. Et progressivement, il y a une montée vers le marxisme, mais c'est le marxisme, c'est pas du tout, si vous voulez, l'espèce de marxisme qui va mettre la lutte de classe au-dessus de la morale. Ça va être typique de Lénine. C'est plutôt l'austro-marxisme, en fait, qui va l'intéresser, avec, dès l'âge de 22 ans, quelque chose qui voit très bien de problématique dans le marxisme. C'est cette dimension évolutionniste. C'est si, après tout, effectivement, le meilleur des mondes doit venir parce qu'il y a des lois de l'histoire qui vont engendré un dépérissement du capitalisme, mais alors la politique n'a pas d'objet. Et il y aura toujours chez Polanyi, outre cette question de l'éthique qui est fondamentale, cette idée que la politique a un sens, et la politique n'a pas de sens parce qu'elle doit accompagner une évolution historique inéluctable, il n'a jamais cru en ce genre de choses, mais bien parce qu'elle incarne un idéal moral. C'est très important à comprendre.
Le père de Polanyi meurt prématurément en 1905, Polanyi continue à grandir et à se former. En novembre 1908, il devient le président du Cercle Galilée, qui aura une certaine importance pour lui. En juin 1914, il est élu au secrétariat général du Parti radical des citoyens de Hongrie. Donc ça recoupe un peu ce que vous venez de dire aussi sur une certaine conception de l'engagement politique. Les années passent et en juin 1919, Polanyi quitte la Hongrie pour Vienne, alors initialement, d'après ce que j'ai cru comprendre, pour des raisons de santé, mais il va y demeurer de façon beaucoup plus durable. Et si Vienne est à la veille de la Première Guerre mondiale une capitale européenne majeure, c'est la quatrième ville d'Europe, une ville qui bouillonne, une forme d'effervescence intellectuelle, qu'est-ce qu'il en est au sortir de la guerre? Qu'est-ce que c'est que la Vienne post-Première Guerre mondiale?
Donc nous arrivons là à l'épisode viennois où il va rencontrer sa future épouse, Ilona Dusinska, qui elle est une militante communiste de choc, hein, c'est vraiment une femme d'action. Finalement, Ilona va devenir beaucoup plus critique par rapport à son engagement et elle sera même mise en dehors du Parti communiste pour déviation luxembourgiste, etc., etc. Enfin, vous voyez un peu l'affaire, on ne plaisante pas trop à l'époque, il savait qu'elle avait critiqué le fait que la mouvance communiste devienne quelque chose de totalement militaire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui avait donné vraiment de sa personne dans cette histoire, à tel point d'ailleurs que si Polanyi n'a pas terminé sa vie aux États-Unis, c'est parce que sa femme était blacklistée, hein, comme ancienne communiste.
I was born in Vienna 1923.
Je suis née à Vienne en 1923. C'était l'année de la grande inflation. Ma grand-mère m'a raconté que cette année-là, on utilisait des brouettes pour transporter l'argent que l'on pesait, car plus personne ne comptait les billets. On m'a laissé entendre que c'est moi qui ai introduit mes parents aux organisations socialistes viennoises. Ils en sont venus à admirer profondément l'administration socialiste connue sous le nom de Vienne Rouge. Et ce sont surtout les derniers jours de cette Vienne Rouge qui ont marqué le reste de ma vie. Je garde un souvenir très vif de la brève guerre civile qui a pris fin en 1934. Pendant environ 3 jours, il n'y avait plus d'électricité. C'était la grève générale. Quand l'électricité est revenue un jeudi, après avoir été coupée depuis le lundi, ma grand-mère était absolument ravie. Mais moi, je savais que c'était une mauvaise nouvelle. Cela voulait dire que notre camp avait perdu et que c'était en réalité une défaite. Lorsque je suis retournée en classe le lundi suivant, de nombreux professeurs ainsi que la direction de l'école avaient disparu et on m'a dit qu'ils avaient été arrêtés. J'ai été envoyée en Angleterre en 1934. Mon père y vivait déjà. Des collègues l'avaient informé que la meilleure option pour lui était de partir. Son journal connaissait d'importantes difficultés financières et tout cela était intrinsèquement lié à l'ascension d'Hitler au pouvoir.
Alors on vient d'entendre la voix de la fille de Karl Polanyi, Carrie Polanyi-Levitt, qui deviendra par la suite elle-même une économiste de renom. Donc elle résume en quelques minutes des années 20 très très riches en événements et des événements assez dramatiques et qui débouchent donc sur un nouvel exil de Karl Polanyi, cette fois en 1934. À propos de cet exil-là, de cette émigration, la femme de Karl Polanyi dont on a parlé juste avant, écrit dans un texte en 1970 que l'émigration de Polanyi en Angleterre au milieu des années 30 fut un vrai tournant de sa vie. Il trouva dans ce pays une communauté d'esprit apparentée au sien et un cercle d'universitaires éminents qui alliaient à leur vision chrétienne une sympathie enthousiaste ou disons une sympathie non critique envers l'Union soviétique. Mais nulle influence intellectuelle ne fut plus forte que le choc de la rencontre avec l'Angleterre elle-même, le capitalisme dans la pleine possession de ses moyens. Est-ce à partir de cet exil-là en 1934 que Polanyi va se tourner de façon encore plus définitive vers l'étude de l'histoire économique, Jérôme Maucourant?
Effectivement, il a travaillé comme journaliste, il incarnait l'aile gauche en quelque sorte d'un journal autrichien de référence. Et c'est vrai que quand les nazis arrivent au pouvoir, bon, bah, ce journal n'était pas, on pouvait pas le lire en Allemagne. Et ça a été un vrai problème économique. Bon, et de toute façon, à partir de 33, ça devient très dangereux. Et c'est très émouvant d'entendre Carrie, qui a maintenant 100 ans d'ailleurs. C'est un témoin extraordinaire du moment. Voilà, donc il est chassé en quelque sorte par ce coup d'État. Et en 34, il découvre quoi? Il découvre une Grande-Bretagne qui finalement n'est pas du tout ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'il avait magnifié à bien des égards la société britannique, mais la condition du prolétariat, c'est quand même quelque chose de terrible. Il comprend à quel point ce capitalisme dont on peut dire, effectivement, c'est la première puissance du monde, enfin, elle est sur le déclin à ce moment-là, mais enfin, c'est quand même le pays de la révolution industrielle, le premier des impérialismes, eh bien, construit tout cela à la fois, et ça, ça va être fondamental dans son œuvre, sur l'écrasement culturel du peuple anglais, effectivement, peut-être plus d'ailleurs que sur l'effondrement économique, parce que c'est vrai qu'il y a eu, effectivement, notamment les premières décennies du 19e siècle, une baisse du niveau de vie. Mais surtout, c'est le fait que ce peuple ait, en quelque sorte, été nié dans son âme profonde qui fait le problème. Il faut bien comprendre que la société anglaise n'est pas celle qu'il croyait. On nous parle d'un pays très, comment dire, très pragmatique, mais pour réprimer le mouvement chartiste, la violence a été ultra présente. Bon, maintenant on sait que les travaux de Thompson, ce qu'il en était quand même de tout cela. Donc, il a le choc d'une réalité quand même violente et très ambivalente.
Après cette période anglaise, nouveau départ, cette fois pour les États-Unis. Il y a eu des allers-retours déjà dans le cadre de voyages intellectuels, etc. C'est là qu'il avait écrit La Grande Transformation en 1940. En 1947, il part de façon beaucoup plus définitive. Est-ce que c'est aux États-Unis qu'il atteint une forme d'apogée de sa reconnaissance universitaire? Il est entouré d'élèves, c'est là où il publie la majorité de ses ouvrages. Est-ce que vraiment là on atteint une sorte de pic dans la réputation et dans l'influence de Polanyi?
Effectivement, il va écrire ce qui va donner la matière de la Grande Transformation. Il l'écrit largement aux États-Unis, même si ce sont les cours qui donnent durant les années 30, même si des textes qu'il écrit avec les Christian Gauls, dans The Christian Left, qui étaient pro-soviétiques, d'une façon d'ailleurs un peu excessive, c'est le moins qu'on puisse dire, tout ça, ça forme une matrice. C'est-à-dire que ce qu'il écrit quand il arrive aux États-Unis, dans ces voyages que vous évoquez, en fait, c'est son expérience anglaise.
Vous avez mentionné le Christian Left. Est-ce qu'on peut dire que Polanyi s'apparente à ce que nous, on connaît comme un chrétien de gauche? Quel est son rapport avec la religion? J'ai l'impression que ça a beaucoup marqué aussi sa compréhension du monde.
Je pense qu'on peut dire qu'il a été croyant. Alors, je ne dirais pas qu'il ait cru à la résurrection du Christ, je pense pas du tout. Mais en tout cas, il a cru à une forme de transcendance, ça c'est clair. Pour lui, les fondements religieux de la société, même du socialisme, étaient tout à fait essentiels à mettre en lumière. Ça a duré, je pense, bon, une hypothèse qui m'est personnelle, mais peut-être entre 1917 et 1937. Après, il va s'en détacher beaucoup, en fait. Mais je pense que il ne faut pas du tout mettre de côté ce genre d'écrit parce qu'il aurait eu une période mystique, ce que je ne crois pas d'ailleurs, comme disent certains. Disons que l'interprétation qu'il va donner du marxisme durant sa période chrétienne, parce qu'il va essayer ce qu'on appelle une sociologie chrétienne. Donc c'est-à-dire c'est très très important. Mais en réalité, si vous voulez, c'est là son opposition au marxisme de type léniniste. J'y reviens. C'est la question morale. Le socialisme ne vaut que par le chemin qui y mène. Il a essayé de penser une alternative au capitalisme. On l'a pas dit tout à l'heure, mais ça va quand même l'imprégner toute sa vie, cette affaire. Il dit, l'humanité ne sera libre que lorsqu'elle connaîtra le coût de ses idéaux. Et on a cette idée d'une responsabilité, si vous voulez, qui lui vient effectivement du christianisme et du judéo-christianisme. Les deux sont vraiment associés chez lui. D'ailleurs, son antifascisme, c'est le fait qu'il comprend très bien que le fascisme veut détruire l'héritage judéo-chrétien. Soit dit en passant. Et pour ça que c'est une pensée qui est pas très récupérable d'une certaine façon. Parce qu'elle nous invite à regarder la réalité en face, à ne pas fuir. Alors, je vous cite, voilà ce qu'il va dire dans La Grande Transformation. Il dit quelque chose qui peut être choquant pour beaucoup de monde. dit, mais il y a quelque chose de commun, en fait, entre un fasciste et un socialiste. C'est que tous les deux reconnaissent la réalité de la société.
Alors, pour en revenir au fil de sa vie, on a dit qu'en 1947, donc, il arrive aux États-Unis, il est déjà assez âgé, puisqu'il a 61 ans. Vous avez dit aussi plutôt que du fait des activités militantes de sa femme, le couple s'installe au Canada, un peu forcé et contraint. Polanyi va mourir en 1964. La légende veut qu'il ait travaillé jusqu'au dernier jour de sa vie. Et en tout cas, il a marqué aussi la pensée universitaire nord-américaine. Pour conclure cet épisode, Jérôme Maucourant, j'aimerais comprendre peut-être un petit peu la façon dont Polanyi a traversé ce début de XXe siècle. Dans un article qui est intitulé « Notre mentalité de marché est obsolète », qui a été publié certes en 1947 et qui a été publié plus tardivement en France encore une fois. Je trouve ça assez frappant, le champ lexical qui ressort, ne serait-ce que des deux premiers paragraphes. Il parle de sciences menacées par la folie, de sujets réels et permanents d'inquiétude, d'incertitude, de questions angoissantes, de crises à surmonter et d'avenir à affronter. Bref, le ton est pour le moins alarmiste. Est-ce que c'est représentatif, selon vous, de l'état d'esprit de Polanyi ?
Oui, alors, avant de vous répondre, je ferai un petit pas de côté. Durant cette période américaine, en fait, il va passer de l'économie politique à l'anthropologie. C'est un peu une montée en généralité, c'est-à-dire la compréhension de toutes les formes d'économie ayant pu exister dans l'histoire. Et il a en tête, justement, en fait, votre préoccupation, dans votre question, c'est-à-dire, il nous faudra, en tirant des bonnes leçons de l'histoire économique, essayer de vivre, et c'est une leçon très actuelle, en coexistence. Il va créer une revue qui s'appelle Coexistence. Nous entrons dans un monde pluriel. Alors, le monde pluriel que Polanyi connaît, c'est le monde des blocs, avec la question de l'âge nucléaire. Donc effectivement, ça l'inquiète beaucoup. Et son idée, c'est essayons de vivre dans la différence de nos systèmes d'intégration économique. Ne cherchons pas en quelque sorte l'affrontement, sachant en plus qu'il y a beaucoup de convergences qui sont possibles. Cet affrontement des blocs, ça produit aux États-Unis ce qu'on a appelé le McCarthyisme. C'est-à-dire, parce qu'il n'y a pas que la question nucléaire, il y a la question des masses médias, et il pointe un danger de conformisme effrayant. Et pour lui, l'idée c'est comment sauver la singularité de l'individu dans une société, effectivement, qui a tendance à être dans la concurrence de blocs antagoniques qui étouffent, en fait, les voies singulières. Et entre nous soit dit, on voit bien que ce propos est d'une actualité brûlante. Nous sommes revenus à ce stade.
Et en tout cas, une voix singulière, Karl Polanyi, en fut une incontestablement. Merci beaucoup, Jérôme Maucourant, d'avoir ouvert
cette
série d'émissions. Et merci de nous avoir donné quelques pistes sur la façon dont on pourrait avoir raison avec lui. Merci à Vivian Le Cuivre et à Françoise Le Floch à la réalisation, à Chantal Nouvello qui a assuré ce duplex depuis Lyon, à Diane Devancet à la préparation et à Grégory Vallon à la technique. On se retrouve demain à la même heure pour tenter de comprendre comment Polanyi a cherché à déboulonner les mythes et les fictions sur lesquels repose, selon lui, la société de marché.